I'm turning today to the Gospel of John, chapter 16 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 1. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 1. Ces paroles de Christ, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne vous scandalisiez point. » Et ce chapitre va nous amener aux paroles de Christ concernant l'ère de l'esprit. C'est là mon titre ce matin, l'ère de l'esprit. Ou si vous voulez, l'ère de l'évangile, la période de l'évangile. À présent, les disciples vont bientôt marcher par la foi et non par la vue. Christ sera crucifié. Il va ressusciter des morts. Il va retourner au ciel. Il sera là à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit, invisible, le Saint-Esprit sera envoyé pour être celui qui dirige l'Église. Et ils doivent marcher par la foi et non pas par la vue. À présent, les paroles du Seigneur sont très claires. Et d'abord, j'aimerais vous donner un premier point. Ceci sera très rapide. Le premier point est celui-ci. Le côté sombre des choses. Ce sera l'ère de l'esprit, l'ère de l'évangile. Mais il y a un côté sombre au verset 2. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. Je vous ai dit ces choses au verset 1, afin que vous ne vous scandalisiez point. Il a parlé déjà de leur rejet après son départ, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ou dans d'autres traductions plus modernes, pour que vous ne trébuchiez point. Ceci est tout à fait valable. En grec, c'est un terme très intéressant. Et nous avons un terme dans notre langue qui vient directement de ce terme, scandaliser, presque littéralement. Ce que cela signifie, que vous ne trébuchiez point, que vous ne soyez pas choqués, surpris par l'opposition, par la persécution, par les problèmes qui vont venir. Ainsi, je vous le dis maintenant, avant que ça ne se passe, de manière à ce que, quand cela arrivera, qu'ils vous chasseront des synagogues, qu'ils essayent de mettre fin à votre vie, vous saurez que je vous ai prévenu. Il y a un côté sombre à cela, l'hostilité du monde qui sera toujours là, si ce n'est pas dans les exécutions, dans des mises à mort ou dans une persécution physique, d'une manière certaine, dans une persécution intellectuelle, une opposition intellectuelle et souvent légale, et une persécution légale, comme nous le voyons, même à présent dans notre pays, il y aura toujours l'opposition au message de Christ à l'Évangile. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisiez point, que vous ne soyez pas surpris, étonnés, choqués. Dans peu de temps, ils vont être excommuniés du temple, de la synagogue, de l'église juive. Et au verset 3, ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. Ils ne connaissent pas Dieu réellement. Ils n'ont pas cette religion vivante. Il y a une religion qui est morte et une religion qui est vivante. Il y a des fausses religions, des religions mortes, où ceux qui y adhèrent ne connaissent pas le Dieu vivant. Ils n'ont pas cette relation avec lui. Ils n'ont pas sa puissance dans leur vie. Et en eux, c'est une religion de formalité, une religion morte, une foi morte. Et la religion juive, d'une manière extraordinaire, est devenue morte. Non pas tous, mais la plupart du clergé juif n'a pas cette religion vivante et vraie à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi, dit Christ aux futurs apôtres. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Et ceci viendra très vite. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Oh, toute l'hostilité était dirigée contre Christ, non pas contre ses apôtres. Il les a protégés d'une certaine manière. Il a amené toute l'hostilité contre lui personnellement. Maintenant, il les avertit qu'il va partir, qu'eux sont ceux qu'il représente et ses prédicateurs, et que l'hostilité va être dirigée à présent contre eux. Ainsi, nous voyons ici le côté sombre de l'opposition du monde contre l'Évangile. Il y a deux royaumes, le royaume de Christ, où la vérité est proclamée, et le royaume d'un monde incroyant qui est hostile contre Christ, qui est sous la puissance du prince de la puissance de l'air, l'ennemi de nos âmes. Et au verset 5 ici, le Seigneur dit aux disciples, « Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Ils lui ont demandé ceci, mais ils ont arrêté de demander. Et ceci est dit pour montrer que les disciples étaient bien plus en souci de leur chagrin, de leur deuil, oui, parce qu'ils aimaient Christ, ils aimaient le Sauveur, et le fait qu'il leur disait qu'il allait retourner au ciel, au Père, même s'ils n'ont pas entièrement compris cela, mais ils étaient dans le deuil et dans le chagrin, et au lieu de se dire « Oh, mais cela signifie que sa mission est finie, qu'il va faire quelque chose à présent, quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, et qu'il va retourner au ciel, et nous allons continuer sa mission en tant que représentants de Christ. » Non, ils ne pensaient pas à cela parce qu'ils s'en sont arrêtés au fait qu'il va nous laisser. Et ils se lamentaient à cause de cela, ils souffraient de cette tristesse. Et ils ne disaient pas « Pourquoi t'en vas-tu? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que tu vas ?» Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oui, parce qu'ils le perdaient, parce qu'ils ne semblent pas avoir mis en place le royaume, parce qu'ils pensaient qu'il allait mettre en place un royaume glorieux sur cette terre. Il leur a dit tant de fois que ceci est pour le futur et qu'il est venu pour sauver les âmes, qu'il est venu pour être le sauveur du monde. Ils ont entendu Jean-Baptiste qui disait « Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il y a cette grande œuvre qui va être accomplie très bientôt pour que les gens soient sauvés et pardonnés. Mais ils ne comprennent pas cela à ce moment-là. Ils sont simplement dans la tristesse en pensant « Oh, pourquoi est-ce qu'il n'établit pas un royaume à présent sur terre ?» Et cependant, il s'en va. Et nous en arrivons au verset 7. « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Aide, l'Avocat, le Saint-Esprit ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les gens, de manière naturelle, posaient la question, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas venir avant que Christ ne soit reparti? Pourquoi est-ce que Christ doit retourner au ciel avant que le Saint-Esprit n'arrive? Et la réponse est simple. Tout le but de la venue du Saint-Esprit sera d'appliquer l'œuvre de Christ. Ainsi, l'œuvre de Christ doit être accomplie avant que le Saint-Esprit ne vienne. Christ doit aller à la croix du calvaire et souffrir et mourir et expier les péchés de tous ceux qui sont rachetés. Christ doit ressusciter des morts et retourner au ciel. Sa grande œuvre d'expiation, son œuvre d'intercession et de médiateur doit être accompli parce que le but de la venue du Saint-Esprit, c'est pour appliquer ceci au cœur des hommes et des femmes. Ainsi, de manière naturelle, il dit « si je ne m'en vais pas », c'est-à-dire que si je n'accomplis pas tout ce que je suis venu pour accomplir, alors le Consolateur ne viendra point à vous. C'est là le décret de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, dans le conseil éternel, a déclaré et décidé que ceci serait fait ainsi, que le Fils allait venir, qu'il allait faire cette œuvre extraordinaire, qu'il allait retourner au ciel et qu'ensuite le Saint-Esprit allait venir. Ainsi, il y a un ordre précis dans le conseil éternel de Dieu. Et au verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, en étant allé à la croix du Calvaire, en étant ressuscité des morts, et en étant retourné au ciel, et tout ceci va se passer très prochainement, ceci commence la nuit même où Christ dit ces paroles. Ainsi, quand le Saint-Esprit vient au verset 8, et ceci nous amène à notre deuxième point, il convaincra le monde du péché. La première des trois choses que le Saint-Esprit va faire principalement au verset 8, et quand il sera venu, ceci va se passer. Christ allait se laisser arrêter, il allait être jugé, exécuté. Ensuite, il allait ressusciter des morts, retourner au ciel. Il y aura ce temps, puis viendra le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descendra sur l'Église. Le verset 8 va commencer. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Ainsi, son œuvre sera de convaincre de péché. Avant de continuer, souvenez-vous du dernier verset du chapitre précédent, le verset 27 du chapitre 15. Et vous aussi vous rendrez témoignage. Ils allaient prêcher, mais quel effet aura leur prédication? Notre premier point, c'était le côté sombre. Les gens ne veulent pas entendre la prédication. Ils sont un petit groupe de personnes. Ils seront persécutés. Ils seront excommuniés de l'Église juive. Ils seront emprisonnés. Certains mourront martyrs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont les témoins de Christ. Mais c'est là ce qui fait toute la différence. Le Saint-Esprit va venir et l'œuvre invisible du Saint-Esprit va commencer avec le verset 8. Il convaincra le monde de péché. Dans notre version, ce terme traduit par convaincre. Tout ce qu'il va faire quand il viendra, il convaincra. Il va corriger, convaincre. Le monde de péché. Le monde, qu'est-ce que cela signifie? Pour les disciples, le monde, ce sont les juifs, les chefs des juifs incroyants qui sont contre eux, les persécuteurs, ceux qui font de leur mieux pour tourner les foules contre Christ. C'est là le monde. Et dans toute période de l'histoire, la majorité des gens sont ceux qui sont le monde incroyant contre Christ. C'est là le monde. Mais le Saint-Esprit et son œuvre sera de convaincre, de corriger, de reprendre. Oh, chers amis, c'est merveilleux, c'est là ce qui fait toute la différence, ceci est puissant. Je peux parler de ces choses, je peux prêcher par rapport au péché. Qui veut entendre parler de péché? Quel sujet négatif? Qui veut être accusé de toutes sortes de choses, d'orgueil, de tromperie, de colère et de toutes sortes de péchés? Qui veut comprendre et réaliser qu'ils sont rejetés par Dieu et qu'ils seront condamnés éternellement et aller en enfer? Est-ce que ce sera un sujet populaire? Est-ce que les gens vont m'écouter? Oh oui! Ils vont dire oui, c'est moi, je suis un pécheur méchant. Non, ils ne veulent pas écouter parce que tout ce qui est en eux sera contre mon message et ils vont rejeter mon message, peut-être qu'ils vont me persécuter, c'est là ce qui se passe. Personne ne veut écouter ce message, personne ne veut de ce message. Une personne chrétienne va dire à un ami, j'ai un sauveur et j'aimerais te dire qu'il est mon sauveur, il sauve du péché, mais l'autre personne dit non, je ne veux pas entendre cela. Ainsi, comment est-ce que ce message peut réussir? Comment est-ce que ce message peut transformer les gens qui vont naturellement être contre ce message? La différence, c'est le Saint-Esprit. Alors que nous parlons au cœur, que le Seigneur connaît, que lui a choisi et à qui il va parler, dans le cœur, il va convaincre. Et la personne va réaliser que ce message est vrai. Ceci parle de moi, ceci me fait ressentir ma culpabilité, ma condamnation devant Dieu et mon besoin du pardon de Dieu. Jamais je n'ai cru en lui. Je l'ai méprisé, je l'ai mis de côté, je me suis moqué de lui. et j'ai besoin du Sauveur, quelle transformation, quel changement dans une vie, quelle chose extraordinaire. Quand le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs, alors que nous parlons aux hommes et aux femmes, le Saint-Esprit œuvre dans le cœur même de ces personnes. Et c'est là la puissance de l'Évangile, c'est là toute la différence, chers amis. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Et la personne est touchée. Son cœur est enclin à écouter et il réalise son état devant Dieu. Au verset 9, ceci est expliqué un peu plus par le Seigneur. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. Certaines personnes ont pris ceci et sont allées un peu trop loin. Ils disent, « Oh, vous voulez dire que quand une personne est jugée par Dieu, il y a un seul péché pour lequel elle est jugée, cette incrédulité, le rejet de Christ. Les autres péchés, même graves, ne sont pas importants. Il y a une seule chose que Dieu veut savoir. Est-ce que vous croyez en Christ ?» Et ceci est un non-sens, insensé. Non, nous sommes jugés pour tous nos péchés, mais bien sûr, le péché principal, c'est le rejet de Christ, l'incrédulité. C'est là le péché principal. Et nous sommes jugés pour tous les autres péchés également, parce que nous ne croyons pas en Christ. Mais si vous croyez en Christ, alors vous êtes pardonnés pour tous vos autres péchés. Oui, nous allons dans le jugement. Nous sommes jugés pour tous les péchés. C'est là ce que la parole dit dans tant de passages. Tous ceux qui ne suivent pas toutes ces choses qui sont écrites dans le livre du Seigneur. C'est là la base de notre jugement, tous nos péchés. Même un seul péché, quel qu'il soit, car quiconque gardera toute la loi et cependant transgresse une seule loi est coupable contre toute la loi, dit l'apôtre Jacques. Chers amis, nous sommes jugés pour tous nos péchés, mais le péché principal, c'est l'incrédulité, le rejet de Christ. Et d'une certaine manière, c'est le péché le plus insensé. De ne pas croire dans la seule personne, la personne divine, Dieu, homme, Jésus-Christ, qui peut sauver votre âme. Celui qui est le plus bon et le plus doux, qui est venu du ciel pour expier nos péchés, de ne pas le recevoir, c'est si insensé. De rejeter quelqu'un de si important, il est le Dieu éternel, avec le Père, par qui toutes choses ont été créées et pour qui toutes choses ont été créées. C'est l'insulte la plus importante contre Dieu. Ainsi, c'est le péché principal, mais ce n'est pas le seul péché pour lequel nous sommes jugés. De péché parce qu'il ne croit point en moi. Nous devons prêcher par rapport au péché. Je me souviens que un évangéliste bien connu qui n'est plus en vie disait il y a bien des années, il disait c'est une grande erreur que de souligner trop le péché. Et son raisonnement humain disait « Oh, parce que les gens n'aiment pas entendre parler du péché et alors vous n'aurez pas des foules qui viendront. » Mais sa solution était ainsi, ne prêchez pas trop par rapport au péché. Mais ce que Christ dit à ses disciples et à nous, c'est prêcher par rapport au péché. Témoignez pour moi et prêchez par rapport au péché. Parce que alors que vous faites cela, le Saint-Esprit va convaincre les cœurs et œuvrer à l'intérieur. C'est là la différence. Oui, les gens ne veulent pas entendre ce message. Mais si vous voulez l'œuvre de l'Esprit, vous devez prêcher les choses que l'Esprit veut entendre. Et lui veut convaincre de péché. Et les gens seront sauvés. Et je continue avec un autre point qui est celui-ci. Le Saint-Esprit va convaincre de justice. Au verset 10, de justice. Parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Quand il viendra, il convaincra de justice. Qu'est-ce que cela signifie? De justice? De quelle justice? De la justice de Christ. Ne voyez-vous pas? Ils vont arrêter Christ, le soumettre à un jugement frauduleux, et ils vont le juger, le crucifier, le remettre aux autorités romaines pour être crucifié. Il sera là attaché à la croix comme un criminel. Quand le Saint-Esprit vient, il va convaincre et reprendre, selon la justice de Christ. Tout le long, il était parfait, juste. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, de nous convaincre de péché et en même temps de nous faire réaliser que nous avons besoin de la justice de Christ. Il est parfait, sans tache, merveilleux. Et nous avons besoin de sa justice qui nous est imputée. Si souvent j'essaie de prêcher cela, vous avez besoin de Christ pour souffrir, pour mourir à votre place à la croix du calvaire, pour porter la condamnation de votre péché à votre place, pour que vous puissiez être pardonné de tous vos péchés. Il a souffert à votre place. Mais ainsi, vous n'irez pas en enfer et vous ne serez pas condamné. Mais ceci ne vous amène pas au ciel. Ceci n'est pas suffisant parce que ceci vous délivre uniquement de l'enfer. Mais comment est-ce que vous allez aller au ciel? Vous avez besoin non seulement d'être délivré des choses négatives de votre péché, mais vous avez besoin de quelque chose pour mériter, quelque chose de positif pour mériter le ciel. Vous avez besoin de la justice de Christ. Il a souffert, il est mort pour ôter votre péché. Et il a offert son obéissance parfaite au Père et son être saint pour être votre justice, pour vous représenter. Et sa justice, si vous vous confiez en lui, vous est imputée, vous est donnée. Vous avez besoin de la justice de Christ. C'est là ce que l'œuvre du Saint-Esprit qui vous convainc de votre péché, pour que vous puissiez réaliser que vous avez besoin de la perfection, de la justice de Christ. Vous devez être sous son aile comme son enfant, revêtu de la justice de Christ qu'il va vous donner. C'est là l'œuvre de l'Esprit. Ainsi, il y a deux points et il y a quelque chose d'autre que nous allons considérer dans un moment. Christ va aller à la croix du calvaire. Il va souffrir, mourir dans une agonie terrible pour porter la condamnation du péché de tous ceux qui seront sauvés. Ensuite, il va ressusciter des morts et il va retourner au ciel. Ensuite, il faudra attendre. Il y aura ces apparitions du Seigneur aux disciples après la résurrection, puis il y aura une attente. Puis, ils seront là rassemblés dans une chambre haute. Et quand le jour de la Pentecôte est venu, souvenez-vous de ce qui s'est passé, tout est là dans le livre des Actes au chapitre 2. Il y avait un bruit comme d'un vent fort et tout le monde dans la ville de Jérusalem était étonné, surpris et choqué et terrifié. C'était quelque chose d'extraordinaire, un bruit extraordinaire. Ils sont sortis et ils pouvaient entendre le bruit comme d'un vent fort qui est descendu. C'était une visite de l'Esprit. Ils avaient peur. Est-ce que c'était Dieu qui est descendu? Ils étaient des gens religieux. Et qu'est-ce qui allait se passer avec ce bruit qui est descendu? Peut-être que c'est sur leur temple sacré. Est-ce que Dieu va les visiter pour la première fois en 400 ans à cause de leur désobéissance? Ils ont été mis de côté et n'ont pas entendu le Seigneur. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux? Et cependant, ce grand bruit est descendu sur les chambres hautes où les disciples du Seigneur et d'autres disciples étaient rassemblés. Et il semblait que ceci passait loin du temple. Et ce bruit est descendu sur l'église primitive qui commençait. Et le résultat, c'était le Saint-Esprit qui a été déversé sur les disciples rassemblés. Et ils ont eu le don des langues étrangères qu'ils pouvaient parler. Et les disciples sont sortis ce jour-là, le jour de Pentecôte, et ils étaient rassemblés à Jérusalem. Il y avait les gens de partout, dans les régions où les Juifs étaient dispersés, de toutes langues. Il y a une longue liste de langues dans Actes 2, et ce n'est pas une liste complète. Et ces disciples galiléens-là parlent dans toutes sortes de langues étrangères et de dialectes qu'ils n'ont jamais appris. Ils parlaient des choses merveilleuses de Dieu et les foules étaient surprises, étonnées. Ceci n'a rien à voir avec le parler en langue que certaines personnes disent pouvoir appliquer de nos jours, qui ne sont pas des vraies langues étrangères. Non, c'était des langues étrangères, des vraies langues. Ceci n'a rien à voir avec les choses d'aujourd'hui qui sont une grande erreur, même des gens bien intentionnés. Et c'est tellement triste de voir qu'ils pensent que ce qu'ils disent sont les langues de la Bible, parler en langue de la Bible. Ces gens qui se tenaient et qui prêchaient d'une manière claire, rationnelle, dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, de manière à ce que les Juifs de partout puissent entendre l'Évangile et qu'ils puissent être émerveillés devant Dieu. C'était un signe de Dieu que personne n'a jamais expérimenté depuis. C'était l'inauguration de l'Église de Christ et la Pierre commence sa prédication merveilleuse, la première prédication qu'il a jamais prêchée. Et ceci était extraordinaire parce que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et il parle aux Juifs qui ont exécuté Christ peu de temps auparavant. Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, il a fait de lui Seigneur et Christ. Et notre version dit, ils étaient touchés dans leur cœur. En grec, c'est ils étaient blessés et ils étaient touchés dans leur cœur. C'est l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. L'Esprit est venu à présent. Ces Juifs qui auparavant ne voulaient pas écouter, maintenant, l'Esprit est venu et ils entendent des paroles qui auraient été une offense pour eux auparavant. « Oh, tu nous accuses, nous, de crucifier le Messie. Comment peux-tu nous accuser ainsi ?» Ils auraient couru pour le tuer, le mettre à mort. Mais à présent, la différence, c'est que le Saint-Esprit en eux œuvre. Il y a cette voix qui dit « Ceci est vrai, ce message est vrai, c'est là ce que nous avons fait, nous l'avons mis à mort. » Et 3000 personnes ce jour même ont dit « Que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous ?» C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, qui convainc de la justice de Christ. Il était celui qui était parfait, et vous le savez, et il le savait. Il était parfait, et tout ce qu'il a fait était merveilleux. Et il a guéri des milliers et des milliers de personnes, et ils l'ont exécuté, et ils l'ont mis à mort. Et à présent, le Saint-Esprit leur démontre les perfections de Christ. Il y a bien des années, j'ai entendu un prédicateur qui disait souvent dans sa prédication, il parlait bien, mais il a dit quelque chose qui m'a paru bizarre. Il disait, les gens ont besoin de voir l'amour de Christ, la beauté de Christ. Oh, quel est le problème? Oh, il n'y a pas de problème. C'est merveilleux. Mais il l'a dit à nouveau, et à nouveau, et toujours à nouveau. Mais la chose bizarre, oh je ne veux pas être critique, ce qu'il n'a pas dit dans toute cette prédication du début à la fin, c'est de dire aux gens, quoi que ce soit, qui va les convaincre de la beauté, la bonté de Christ. Il utilisait simplement cette phrase merveilleuse. Les gens ont besoin d'être convaincus de la bonté de Christ. Et vous aviez envie de lui dire, mais dites-leur ce que c'est, décrivez sa bonté pour qu'ils puissent comprendre et connaître ce qu'il fait, ce qu'il a fait et comment il pense, comment il aime. Montre-leur Christ. Alors ils vont comprendre l'amour de Christ. Oh, je ne veux pas être critique, mais c'est là le message pour nous. Nous parlons de Christ, de ce qu'il a fait. Et nous essayons de révéler son cœur. Et alors que nous faisons cela, le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs. Et les gens réalisent et comprennent et croient en lui et dans la perfection de Christ. Oh, peut-être qu'ils vont me dire, alors que je décris les attributs de Christ et que j'explique, oh, peut-être qu'ils vont me dire, c'est ton opinion. Mais si le Saint-Esprit œuvre dans son cœur, alors ils ne vont pas dire « c'est votre opinion », mais ils vont dire « ceci est vrai ». et jamais je n'ai réalisé ceci auparavant, jamais je n'ai compris ces choses. Ainsi, nous prêchons les choses que le Saint-Esprit va rendre réelles dans la vie des gens. Vous êtes mes témoins, dit Christ. Notre temps passe et j'aimerais en arriver à ce dernier point, au verset 11 de Jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est très difficile de convaincre les gens du jugement à venir. C'est très difficile. Dans ces jours matérialistes, humanistes, oh, c'est comme parler aux gens de contes de fées, parce que l'idée d'un jour du jugement est complètement étrangère pour vous. C'est en dehors de la réalité. Parler du jugement à venir, de se tenir devant Dieu, ainsi. Peut-être le prédicateur peut être tenté de dire « Oh, comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens me croient ou réalisent que ceci est réel ? Peut-être que je vais crier le plus fort possible. Peut-être que si j'ai une voix forte, et ceci va les faire trembler et ils vont comprendre. » Non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Si le Saint-Esprit est là, dites la vérité. Dites-le d'une manière solennelle. Et si l'Esprit est à l'œuvre, alors ce sera là la chose, le message le plus terrible pour les gens. Ils vont réaliser qu'il y a un jugement à venir et les gens vont craindre le Dieu vivant. Je dois dire les choses que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser. C'est là le message pour le prédicateur, pour celui qui est moniteur dans sa classe d'école du dimanche, pour celui qui témoigne aux autres. Je dois prier autant que je dois parler, parce que je dépends du Saint-Esprit. Je dois dire les choses que le Saint-Esprit peut appliquer dans les cœurs. Il va amener ces choses à la vie et les rendre réelles pour les gens. Je ne vais pas essayer de le remplacer ou de faire son œuvre ou de crier de toute ma voix. Non, le Saint-Esprit va faire bien mieux que ce que je peux faire et va rendre ces choses réelles dans le cœur. Et la personne va repartir. Je me souviens du témoignage de John Koenig dans les années 1730, qui était l'un des prédicateurs du Grand Réveil. Il était un jeune homme. Il avait 19 ans à Londres et il étudiait pour être un avocat, qui était quelque chose d'important en ce jour-là. Et il marchait et soudainement, il a réalisé que le jugement allait venir. Il a entendu une prédication par rapport à cela quelques jours auparavant et il l'a mis de côté. Et là, soudainement, ceci l'a saisi, le jugement. Et ceci ne l'a plus laissé, cette crainte du jugement, jusqu'au jour où il s'est donné à Christ, il s'est repenti de son péché. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit qui est là au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Il va convaincre, reprendre le monde de péché, de justice et de jugement. Oh, si seulement j'avais le temps d'expliquer un peu plus, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Mes chers amis, ce sont là les choses que le Saint-Esprit va appliquer dans les cœurs. Certaines personnes enseignent des mauvaises choses par rapport au Saint-Esprit. Et c'est triste. Ils disent que le Saint-Esprit est venu pour vous donner toutes sortes d'expériences bizarres. Non, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde de péché, de la justice de Christ et de votre besoin de son œuvre de médiateur, de sa justice, et pour convaincre du jugement à venir. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Qui est mon enseignant ? Christ le Seigneur, qui parle aux apôtres juste avant sa passion. Chers amis, nous avons considéré le côté sombre des choses et nous avons vu le côté puissant, la conviction du péché, la conviction de la justice de Christ et la conviction du jugement à venir. Priez pour l'œuvre du Saint-Esprit, que jamais l'Esprit ne quitte l'Église dans la prédication, dans le témoignage personnel à chaque occasion. C'est là le sujet. Le Saint-Esprit va nous utiliser, mais nous devons prêcher.